18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, Kimo l'éternel. On salue notre frangin Kimo, hein. Kimo, voilà, qui sort de son émission. Ça fait plaisir.
Je suis heureux de te voir aussi. Comme chaque soir, c'est
T'as
un plaisir.
T'as bonne mine, c'est bien.
Ah
c'est...
ouais, attends, bah, j'étais avec Wafa Oujit, frère. J'étais bien, frérot. Je t'ai dit, change de métier, passe à la musique, frère. Arrête la politique.
Je t'ai dit, hein.
Ils sont plus beaux dans la musique que dans la politique.
Je suis en pleine reconversion. C'est vrai, ça y est, j'ai entamé.
Bientôt, tu vas kiffer.
J'ai besoin d'un tuteur, ce sera toi. Je vais demander toi.
La semaine prochaine.
Qui ça?
Le 7, je crois, de mémoire, le 7 ou le 8. Non, le 8. 8 février. Devine qui? Abdelkader Sector.
Ah, lui, oh là, tu sais quoi?
C'est ton pote.
Non, d'abord, c'est mon pote, c'est mon frangin. Voilà. Mais surtout, je vais aller voir son spectacle.
Et bah attends, il reprend le nouveau spectacle. Et la veille, on a Koffs, le rappeur.
Ah, le Koffs, oh vient?
Qui vient ici à la radio.
Alors,
ça
on est
là.
Alors, moi, j'adore.
Alors, on est là.
Moi, j'achète.
On est là.
Moi, j'achète.
C'est Anthony, il achète en plus.
Anthony,
lui, il achète direct.
Oh, Anthony, il m'a montré un câble là. Faut que je l'achète.
Révolutionnaire.
Ah non, mais je te jure, je le connaissais pas.
Mais moi aussi, il m'a montré ça. Il m'a dit, regarde, j'ai un truc pour toi. Il a dit, j'ai un truc révolutionnaire pour toi. J'ai dit, c'est quoi ce truc?
Je lui ai demandé pour les portables. Il m'a dit, je sais pas. Donc, je soupçonne qu'il l'a volé. Mais bon.
On va voir ça que monsieur Bilal Nelman.
Il l'a emprunté.
Ouais, il l'a emprunté à un magasin sans le rendre en sortant.
Bon, tout se passe bien pour toi?
Non, très bien, on est heureux. Beurre FM est là avec les auditeurs nous le rendent super bien. C'est archi dynamique, il y a beaucoup de projets en cours. On est heureux.
Oui.
On est heureux, écoute, on a la chance d'être avec les auditeurs si et on de est vivre heureux. De bons moments.
J'ai envie de te dire une chose, vive la vie.
Ah oui, vive la vie.
C'est ça, non?
Ah ouais.
Absolument.
La retraite à 99 ans.
Tu sais notre nouveau slogan? Tu connais le slogan quand même ici aux Informés?
Je
on ne lâche. Oui, il y a ça, je veux vous entendre. Tu sais qu'à chaque fois que je le dis, je pense à toi.
Bah oui.
À cause de toi, par ta faute, parce qu'on a un truc entre nous. Je dis aux auditeurs, je veux vous entendre. Et à cause de lui, à chaque fois que je dis. Tu sais que tous les soirs, ça pète.
Hein. Ah, mais c'est bien. Eh, hey, j'écoute.
Tout, le soir. Anthony, parfois. N'est-ce pas? Non, mais dis-lui, parce qu'il se la pète, lui.
Attends, mais non.
Le matin. Dis-lui, tu peux le dire.
Allez,
scroll. Mais il se la pète, lui. Il vient, il nous dit, ouais, voilà. Moustanda, je monopolise.
Non. Ah non, non, eh, hey, moi, hey, je dis-lui.
Concurrence ou pas?
Je suis le Lucky Luke de la radio.
Sauf que vous
pouvez. Tous les soirs, ça pète.
Non, mais attends, tu sais pourquoi vous pouvez pas lutter contre nous?
Parce je que te le dis, on vous a dépassé.
Des places pour Abdelkader Sector.
Ah oui, c'est vrai.
Par exemple, dès que je dis, voilà, il y a deux places à gagner.
Est-ce qu'on peut faire gagner deux places là? Tiens, on va tester. On
c'est
peut faire gagner deux
écoute-moi
places
bien. Tu je vais prendre deux places du quota de la matinale. Que je.
Oh là.
Kimo
01 53 48 3000.
Maintenant,
je veux le standard, je veux le voir exploser. 01 53 48 3000.
Quand je te dis que les informés.
Je veux voir toutes les lignes prises.
Non, toutes les lignes prises, les amis.
Exactement.
Et vous savez quoi? On va le faire en direct là. 01 53 48 3000, chers amis. Non, on veut que ça. On veut que le standard pète. C'est pas pareil.
Nous, ce matin, écoute-moi bien. Ce matin, on a fait sauter le standard.
Bah, il est là, il est en train de sauter là.
Ouais, mais non.
Mais attends, mais regarde. Arrête de la péter, regarde. Mais il est fou ce mec là. Je te dis que tous les soirs, ça cartonne.
Ce matin, on a fait sauter le standard. Je t'explique, il y a une panne pour de vrai, Adil. Voilà. On ne sait plus de standard.
Mais ça nous est. Écoute-moi, Anthony va te le dire. Une fois, ça nous est arrivé.
Le standard nous a lâché en plein milieu du.
C'est ça. Mais il croit, il se la met le mec. Mais il
croit pas.
Le micro.
Vous avez dit, okay. Je suis imbattable.
Les informés, on est dans les infos.
Bien. Donc vous voulez maintenant jouer.
Et on nous.
Vous voulez faire la guerre avec nous la matinale.
Oh, fais la guerre. Non, pas au frère, non, jamais.
Non, alors,
le frère Kimo, jamais.
Allez,
comment on sélectionne
Adil.
Comment on sélectionne parce que le standard il pèse.
Wafa est encore là. Wafa.
Comment on fait
justement, attends. Si on peut ouvrir le micro de Wafa, Anthony, en même temps.
Parce que j'ai un invité qui m'attend au plateau.
Wafa,
moi.
Wafa,
il est ouvert, il est ouvert.
Wafa, choisis une ligne entre 1 et 6.
Ah, c'est Wafa, la main magique.
Voilà, Oujit,
la main
magique. Le 1 entre 1 et 6.
4. Anthony,
envoie
c'est parti.
La 4 à l'antenne.
Bonsoir.
Bonsoir.
Quel est ton prénom et tu nous appelles d'où?
Je m'appelle Boalem, je vous appelle du périph.
Du périph, mais le périph, quel périph? Le périph de Toulouse, et de Marseille, de Paris.
De Paris, oui, c'est à Paris.
Il y a Kim.
J'ai entendu Abdelkader Sector, il y a deux
personnes. Kim qui est avec nous. Il y a Kim qui est avec nous.
Il s'appelle Boalem.
Tu vas rester avec nous hors antenne. D'accord.
Une place hein, pour lui.
Deux places.
Une.
Non, jamais d'avis. Nous, on ne donne pas toujours deux.
Moi, je vais appeler Abdelkader Sector, on va faire gagner des places.
En fait, le truc, c'est qu'il voulait donner une place et en vendre une à Barbès.
Aïe.
Je connais les mecs de Mantes-la-Jolie, je sais comment ils sont. Donc, moi, je suis très vigilant.
Cette émission part en cacahuète, les amis.
C'est
on est censé faire de l'actu.
C'est plus les informés, c'est. Comment on peut l'appeler l'émission? C'est. Viens à l'antenne.
Non, c'est pas possible. Wafa, merci.
Donc Wafa, merci. Tu peux remercier Wafa Boualem. Hein.
Merci beaucoup, merci tout le monde, un grand bonjour.
Eh Boualem, écoute le cadeau, écoute.
On appelle notre invité Anthony. Hein.
Oh là 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 là.
Quelle voix, quelle voix, quelle voix.
Bon, alors Boualem, ne quittez pas, nous allons prendre vos contacts.
Oui, oui, on prend merci l'adresse.
Alors, j'ai envie de dire, merci la matinale.
Ouais, merci la matinale.
Non, c'est un travail
merci
d'équipe.
Merci la matinale.
Tu embrasseras Abdelkader Secteur.
Ah ben, il viendra, il sera,
ah,
tu vas
Abdelkader
voir.
Secteur, c'est un plaisir.
Eh ben, bah, écoute, plaisir. Merci Boualem. Mais non, mais en vérité, c'était tout ça pour vous dire que...
Que le standard pète. Et qu'on est en... Et il se la pète, le mec, il croit que le standard chez nous ici, il fonctionne pas.
Eh, hey, tu sais quoi, toi, t'es mort. Demain matin, on va se faire Adil Varkan.
Nous deux, on va être pourris, je pense.
Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Je vais aller chercher dans les piges toutes les conneries que vous avez faites à l'entrée. On va vous terminer le matin.
Je pense que je vais prendre cher alors.
Non.
Merci
Adil. En tout cas, ce que je veux dire, c'est voilà, que ça soit la matinale, les informés, Vanessa, Bill, voilà. Nedman, Tariq, enfin voilà, tout le monde.
Philippe.
C'est Philippe, bien sûr.
Vanessa.
Après, Philippe, il est trop sérieux.
On oublie Vanessa, voilà. Vanessa
la baisse.
C'est Philippe.
Dinner, il change voilà.
Parce qu'il fait des émissions bizarres. C'est Philippe. Le mardi, il y a Vanessa qui vient. Oui.
Mais c'est bien.
Tu sais qu'à ce moment-là, je suis en PLS parce que je dis Inch'Allah, mes parents, ils écoutent pas.
Au contraire, c'est bien, moi, je trouve, ça éduque. C'est bien, bravo. Non,
voilà. En tout cas, c'est Timo, demain matin. D'équipe, vraiment, sérieusement, on est très heureux d'être tous ensemble et on espère vraiment faire plaisir aux auditeurs. Voilà.
Voilà. Il voulait se la péter, bah, il a eu le truc en direct.
Machallah.
Demain matin.
Mais j'ai jamais douté de tes qualités.
Non, mais je sais, on rigole. Ouais, on rigole. Ouais. Hey, franchement, on rigole.
Adil, je t'ai vu sur un terrain de foot. Je t'ai vu sur un terrain de foot. La balle est passée entre tes jambes, t'étais devant le but, le gardien l'a arrêté. Ce jour-là, j'ai compris que tu étais le mec de la situation.
Bien joué, Kimo. C'est bien.
Ah, c'est génial. Merci pour la place.
Allez, merci. Pour les places. C'est Beurre FM. Merci, voilà. Beurre FM. Voilà.
Et à demain.
À demain.
6h, 9h.
Bon, au revoir,
Kim. On t'embrasse, Kim.
Bonne soirée.
Merci
bisous
à toi, Kim.
Merci.
C'est parti pour l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
J'ai pris énormément de retard, chers amis, aux informés. Les informés, voilà, on s'est donné juste un petit moment de détente en échange avec notre ami confrère qui est lui de la matinale. Kimo, bonsoir, ma chère Anne-Sophie Bereau, qui est la directrice, la patronne de la diversité et de l'inclusion chez Accor. Bonsoir.
Bonsoir.
On a eu un petit moment, vous savez, de tranche rigolade, si vous voyez vous ce que je veux dire. Vous étiez là avec nous, non? Vous étiez là, vous avez participé à tout ça? C'est joyeux, hein, vous voyez, c'est joyeux à la radio, hein. Bon, alors on va parler, on va être un peu plus sérieux, justement, Anne-Sophie Bereau. Vous êtes en charge de la diversité et de l'inclusion chez Accor, on est d'accord?
Oui, tout à fait.
Bon, dites-moi, tout d'abord, on va parler d'un sujet, évidemment, qui est très important, c'est le sexisme ordinaire au travail. C'est quoi? C'est près de 200 entreprises qui sont engagées dans cette initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise. Vous pouvez nous en parler, nous en toucher quelques mots, Madame la directrice?
Tout à fait. Alors en fait, c'est exactement 199 organisations qui sont engagées sur cette initiative. En fait, c'est une initiative qu'on a créée il y a 4 ans avec Anne-Laure Thomas de L'Oréal et Morgane Requel de EY. On s'est retrouvés dans une salle toutes les trois et on s'est dit il se passe quand même pas mal de choses dans nos entreprises. Et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour faire un peu bouger les lignes. Donc on a réussi première année à réunir 30 entreprises sur ces thématiques, parce qu'on avait à peu près tous les mêmes sujets, les mêmes comportements, et on s'est dit collectivement si on allait travailler sur des formations, des sensibilisations, des dire ce qu'il faut dire et pas dire. Et mettre en place des campagnes de faire en sorte que les collaborateurs puissent parler de ces sujets plus librement.
Oui.
Et on dit que autant le faire collectivement, et que quand il y a une bonne pratique qui se fait dans une entreprise, et bien on partage avec les autres.
Quand vous dites partager avec les autres, c'est quoi? C'est j'ai bien compris que le 25 janvier, c'est la journée nationale contre le sexisme. C'est quoi? C'est 48, hein, vous me dites, hein, nouvelles entreprises qui viennent de rejoindre le collectif, d'accord? Le collectif Stop au sexisme ordinaire en entreprise. C'est quoi? C'est qui sont complètement engagés. Hein. On parle aussi en 2022 de 275 actions concrètes qui ont été mises en place. Oui. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples là-dessus?
Des exemples, bah, c'est des campagnes d'affichage, par exemple, en entreprise. pour expliquer qu'est-ce que le sexisme. C'est des formations. On a mis en place une formation en fait tous ensemble en fait, et on partage cette formation de façon gratuite pour toutes les entreprises qui rejoignent le réseau. Donc elle est en français, elle est en anglais, elle va être en plusieurs langues. Et puis quand on a des interventions avec un intervenant qui parle bien du sujet, on se donne les noms. Voilà. Et donc tout ce qu'une entreprise peut faire à son échelle chez elle, elle le partage aux autres. Mmh. Et pour qu'on puisse avancer un peu plus vite.
Anne-Sophie Bereau, Madame la Directrice, justement, j'aimerais, pour qu'on puisse comprendre, parce que quand même pour le grand public qui nous écoute, c'est-à-dire les auditeurs partout en France, ouais, qui sont présents, ouais, et sont très nombreux ce soir, comment il se manifeste ce travail quand on parle de sexisme ordinaire, justement ?
Ouais. Alors, comment ça se manifeste ?
Bah oui, parce que j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure, justement, et je voudrais que nos auditeurs, parmi eux, parmi elles, témoignent, puissent nous faire part de leur expérience, justement, quand on parle de sexisme, d'accord, ordinaire.
Ça se manifeste par ces petits comportements, ces propos, ces attitudes qui dévalorisent en fait une personne du fait de son genre. Ça peut être conscient, on le pense vraiment, ou inconscient, on n'a pas conscience de ce qu'on dit. Mmh. Et en conséquence, en fait, la personne qui est victime de ce sexisme, elle a moins confiance en elle, elle se sent moins légitime. Et c'est très très lié aux stéréotypes, vous savez, aux images qu'on a des métiers. On se dit, bah, ça c'est plutôt un métier féminin ou un métier masculin.
Oui.
Ça peut être, alors, un exemple, ça peut être des petites blagues. Quand on interpelle une personne par un surnom, on dit Anis, ma belle, ma puce. Ça pour une femme, on ne dirait pas pour un homme. Ça, c'est ma grande, ma petite. C'est par exemple, on pense qu'une femme n'est pas capable de suivre une réunion trop technique, mmh, parce que c'est trop technique pour une femme.
Ça existe encore, voilà. Ça, c'est incroyable quand même ce que vous me dites. Hein.
Ou alors, on a une femme autour, oui, de la table et puis on dit, bah, tiens, on a une femme, elle va nous apporter le café.
C'est incroyable, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Et c'est ça le sexisme ordinaire. Hein.
C'est ça. C'est pas forcément. Ça peut être paternaliste. Hein. Des fois, c'est quand on l'appelle ma petite, ma puce. On peut dire c'est pour les hommes pensent que ça peut. C'est un peu paternaliste, mais en fait, non. C'est pas agréable quand on est une femme.
Comment on peut prévenir tout ça, justement, ces comportements que vous venez de nous citer ?
Alors, il faut déjà en avoir conscience. Il faut sensibiliser les employés, les collaborateurs, à tous ces petits mots qu'on peut peut-être dire dans la sphère personnelle, en dehors du travail, mais que dans le travail, on est tous là pour un seul but. Et c'est pas, alors vous allez me dire, non, est-ce qu'on peut pas rigoler ? C'est pas une histoire de rigoler pas rigoler. Bien sûr qu'on peut rigoler au travail, mais il y a des choses qu'il faut dire et des choses plutôt dans la sphère privée.
Oui.
Et au travail, on ne peut pas dire.
Ah ben justement. Alors, on va prendre par exemple un cas de figure. Comment réagir quand on est victime ou témoin d'un comportement justement sexiste au bureau, par exemple ?
Alors, quand on est victime, il faut, et c'est ce qu'on dit hein, dans les formations, c'est que vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Il faut le faire remarquer à la personne qui parle comme ça, dire ça, moi je suis désolée, c'est pas parce que je suis une femme que je perds le café, c'est pas parce que je suis une femme que j'ai pas compris.
Donc ça, faut le dire, il faut l'exprimer alors. Mais ça risque pas de créer un malaise, un clash entre celui qui le demande et puis dans cette fameuse réunion dont vous faites vite, voilà, vous êtes la seule femme, allez nous chercher un café. Ça risque pas de créer un malaise supplémentaire et de mettre mal à l'aise en plus, justement, la femme, cette personne ?
Bah, on peut le faire avec sérieux, on peut le faire avec humour. Ça dépend aussi la relation qu'on a de proximité avec la personne qui nous le dit. Donc, il y a façon de faire aussi en fonction de sa personnalité. Mmh. Ce qu'on conseille quand même, c'est de pas laisser les choses se faire. Mmh. Parce qu'ensuite, après, il y a des habitudes et on n'y pense plus.
Et quand on est témoin, il faut aussi le dire, alors, dans ce cas-là. Il faut aussi le souligner.
Il ne faut pas minimiser ce type de situation. On peut le dire de façon... On peut le dire de façon humoristique, disons, on peut le dire de façon subtile. On n'est pas obligé d'être hyper sérieux, mais témoigner et dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on soit victime ou témoin. C'est important pour ne pas reproduire.
Alors, justement, pour ne pas le reproduire.
Là, tu m'as blessé, là, franchement, c'est pas très agréable. On peut le dire après, la réunion.
Bien sûr.
Alors, justement, le stop au sexisme ordinaire en entreprise, ma chère Anne-Sophie Beraud, madame la directrice, hein, je le rappelle, vous êtes directrice en charge de la diversité et de l'inclusion chez le groupe Accor. Qu'est-ce qu'il faut faire pour celles et ceux qui vous écoutent, justement? Est-ce qu'on doit s'adresser, par exemple, à une institution? Est-ce qu'on doit se tourner vers une instance? Le stop au sexisme ordinaire en entreprise, comment, justement, se joint-il? Et puis, aujourd'hui, rappelons, hein, c'est la journée nationale contre le sexisme.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'était le 25, hein, c'est hier.
C'était hier, pardon, hier, oui, absolument.
On peut dire que c'est la semaine. En fait, dans les entreprises, on peut faire appel à plusieurs personnes. Alors, on peut faire appel à son manager, d'une part, on peut en parler à son manager. Ensuite, si on n'est pas hyper à l'aise, on veut que ça reste un petit peu confidentiel, on peut parler au RH. Et ensuite, il y a aussi des personnes qui sont nommées dans les entreprises, pour traiter ces sujets. Il y a des référents. Donc, on peut aussi en parler aux référents et dire que ça veut, bon. On veut que ça reste anonyme. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est vraiment pouvoir en parler. Ou ça peut être aussi à une personne dans l'équipe de confiance. Et dire comment tu gérerais cette situation, comment tu peux m'aider à dire que je ne suis pas d'accord. En fait, déjà, parler et être conscient qu'on a le droit de réagir.
Eh bien, merci.
C'est important.
C'est très important. Et effectivement, j'ai bien fait de vous prendre à l'antenne pour parler de ce sujet extrêmement sensible, extrêmement important. Bravo pour tout ce que vous faites, Anne-Sophie Beraud. Et je le rappelle, vous êtes donc, c'est pour l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise, hashtag Stop E, majuscule, hein, on est d'accord. Anne-Sophie, donc, vous étiez avec nous, c'est Anne-Sophie Beraud qui est la directrice de la diversité et de l'inclusion chez Accor. Merci infiniment, je vais marquer une pause et ensuite après j'ouvrirai l'antenne pour vous écouter et en parler avec vous. Merci Anne-Sophie, merci madame la directrice.
Merci à vous.
Et à très bientôt, au revoir.
À très bientôt, au revoir.
On lance la pub et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h23, quel plaisir de vous retrouver Les Informés, vous le savez, parti tout de suite, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Et comme d'hab, hein, faites exploser le standard, Anthony vous attend. 01 53 48 3000, je vous attends évidemment, je veux vous entendre, comme dirait évidemment Kimo. Je veux vous entendre au 01 53 48 3000, faites péter le standard sur un sujet justement qui nous concerne, le sexisme au travail, mesdames, messieurs. Est-ce que vous avez eu tout le temps des petites remarques déplacées, désobligeantes, comme nous l'a expliqué tout à l'heure notre invité? Effectivement, venez témoigner, nous raconter un petit peu de les choses subtiles, vous savez, comme disait Anne-Sophie Beraud tout à l'heure, très subtiles, hein, de façon évidemment, mais qui font toujours référence à des trucs. Jean-Pierre Colombiès, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir aux auditeurs. Oui, très bien, fraîchement comme tout le monde.
Comme chacun à vos passages, vous venez, vous répondez aux auditeurs, notamment ex-commandant de la police, aujourd'hui porte-parole de la police indépendante, mais également aussi comédien. Alors, monsieur l'ex-commandant de la police, justement, tout à l'heure j'ai eu un invité qui parlait du sexisme ordinaire au travail. Est-ce que c'est des choses, ça, qui peuvent se porter au commissariat, et à quel moment justement elle disait, par exemple, elle donnait des exemples, quand on est une femme, c'est la seule femme de la réunion, bon, vous avez des remarques sexistes, il y en a un qui va vous dire, bah, comme c'est la seule femme, allez nous chercher du café.
Ouais.
Bon, ça peut être, non mais c'est déplacé.
Oui, c'est surtout stupide.
Stupide, après à quel moment juge-t-on s'il faut aller déposer une main courante? Est-ce que quand ça devient du harcèlement? Est-ce que quand ça devient, quand ça se banalise? Je voudrais aller à Toulouse et prendre Camélia. Bonsoir Camélia. Camélia, bonsoir.
Ah, je vous ai perdu.
Non, vous êtes avec nous, vous êtes en direct. Bonsoir Camélia. Ah,
bonsoir.
Bonsoir. Ça va, tout va bien?
Ça va, très bien, et vous?
Bah, super. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Camélia?
Moi, je suis chargée de recrutement, dans un cabinet de recrutement.
Bon, très bien, ça se passe bien?
Ça se passait bien jusqu'au harcèlement. Donc le harcèlement...
Ah, bah racontez-nous justement, vous avez entendu une interview tout à l'heure de madame Anne-Sophie Beraud?
Et oui, malheureusement.
Et vous avez été vous-même victime ou témoin? Victime, de ce que je comprends.
Victime et témoin.
Allez-y, racontez-nous. En plus, il y a Jean-Pierre Colombien qui est là.
Alors, je l'ai vécu dans une société où j'étais précédemment. Mmh. Et je l'ai vécu par une collègue qui était... un collègue qui était homme. Ça, c'est un peu habituel, on s'y habitue. Et ma façon de réagir, en fait, c'était de le regarder et de toujours lui dire « c'est borderline, ça. Mmh. Ça frôle l'harcèlement sexuel. Attention
oui. !»
Et je partais. Au fur et à mesure, je pense qu'il a pris ça au sérieux parce qu'il a arrêté. Mmh. Et puis, dans la société dans laquelle je suis, on a fait un séminaire en fait en Camargue en septembre. et j'ai été victime d'harcèlement sexuel de la part de collègues féminines qui se sont mis à parler de mon corps, de mes formes, et qui sont venues à m'humilier devant d'autres collaborateurs alors qu'on était en train de parler, justement de l'exploitation et de l'activité qu'on avait sur... sur l'agence de Toulouse. Et j'avais un haut un peu échancré, et donc elle est arrivée en criant: non mais range tes boobs, franchement j'ai l'impression que ça va m'exploser à la gueule.
Mais donc
c'est sympa.
Donc j'ai été très humiliée, sachant que c'était pas non plus très décolleté, et que une femme qui fait une réflexion à une femme sur le physique, c'est quand même très grave. Donc j'ai rien dit, je suis partie, parce que face à la stupidité, malheureusement, on peut rien faire.
Jean-Pierre Colombier, est-ce qu'on vous entendait ça?
Oui, ben elle a prononcé le mot qui s'impose, hein, stupidité. Le gros problème pour les dépôts de plainte ou les mains courantes, je pense qu'elle va pas me contredire, c'est l'élément de la preuve. C'est-à-dire que quand vous avez eu des réflexions machistes ou déplacées, ou voire comme elle le dit fort justement, parfois à la limite de l'agression, c'est-à-dire des gestes déplacés, ce genre de choses. Le gros problème, c'est que trop souvent, ça se fait en huis clos. Ça se fait dans des endroits, des réunions où c'est un...
C'est votre cas, Camélia ?
Oui, moi, c'est mon cas.
Il a raison, Jean-Pierre Colombier, l'ex-commandant de la police, il dit que c'est compliqué, c'est difficile.
Oui, c'est très compliqué. C'est compliqué.
Alors, dans mon malheur, j'ai eu la chance qu'elle l'ait fait devant d'autres collaborateurs masculins, qui, par contre, je les ai vus faire, hein. Lui ont parlé pendant une dizaine de minutes, donc moi je m'étais écartée. Ensuite, elle est venue s'excuser. Mais voilà, ça date de septembre. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais réadressé la parole.
Donc, ce sont les hommes qui eux-mêmes ont fait la morale à votre collègue.
Oui.
Donc voilà, donc comme quoi le sexisme ou le harcèlement n'est pas l'apanage uniquement des hommes. Cela dit, historiquement, culturellement, c'est quand même bien plus souvent les hommes qui font ce type de choses. Moi, j'ai eu à traiter, j'étais dans une unité qui était spécialisée et chargée de ça, notamment, des affaires de harcèlement ou d'agression sexuelle.
Un sujet que vous connaissez imminemment,
oui,
évidemment,
tout à fait.
Bien.
Et le gros problème, je dirais, procédural qui était auquel on se cognait... de preuves. Donc ça nécessite de faire des auditions, d'entendre l'entourage. C'est une procédure qui est lourde. Qui n'est pas amusante
longue,
du tout.
Longue.
C'est long parce qu'il faut que ce soit.
Et surtout, les
solide.
Collaborateurs professionnels n'ont pas forcément envie d'être impliqués.
Ah,
parce
complètement.
Que ça peut entacher leur réputation.
Bien sûr.
Moi, ce que j'invite à faire à toutes les personnes qui nous entendent, tous vos auditeurs et vos auditrices ce soir, c'est de dire attention, là, c'est borderline. Parce que sincèrement, moi, ça m'a beaucoup servi. Et au point où j'avais imprimé un article de loi sur le harcèlement sexuel, je l'avais posé sur le bureau d'une de mes collègues.
Moi, ce qui est assez rare, c'est que ce soit une femme, justement, qui se...
Ah, méfiez-vous, c'est plus souvent qu'on le croit.
Bah, écoutez,
les hommes vont le faire.
C'est important que vous le disiez.
Mais les femmes sont très dures entre elles, malheureusement. Dire,
hein. Oui, non, mais j'entends. Mais ça me surprend pas trop, non plus. Mais voilà, quoi. On en revient toujours au même problème. Quelle est la limite à poser? Comment on arrive à se protéger de ça? Bah, c'est pas simple, parce que, comme elle le dit, c'est dans un milieu professionnel. Donc, si ça se passe mal, entre guillemets, ça peut vous retomber dessus, quoi. Faut être clair.
Ouais.
Ce qui est pas sympathique. En pleurs.
Vous avez eu à porter plainte, vous-même, Camélia?
Non, moi, j'ai pas porté plainte avec le caractère que j'ai. Croyez-moi que j'ai remis les angles au carré.
Non, mais c'est important ce que vous dites. Non, si je peux me permettre de rebondir, c'est important ce que vous dites. Vous avez du caractère.
Ah oui, moi, j'ai imprimé l'article de loi, je l'ai posé sur le bureau. La dernière fois, la prochaine fois, c'est prudent pour la société. Et toi, je porte plainte de réseaux sociaux. Donc.
Non, mais ce qu'elle dit, c'est important. Parce que la réaction des personnes. Oui, parce que la réaction
vous
des
personnes. Vous disiez, elle a du caractère.
Ben oui. Il ne faut pas avoir peur aussi de mettre des barrières et d'expliquer à ceux ou celui ou celle qui s'amuse à déborder, de dire attention, là ça va trop loin, si ça va trop loin, on va s'expliquer d'une autre manière, éventuellement légale.
Oui.
Moi, c'est ce que je fais. Moi, j'imprime l'article de loi, je le pose sur le bureau. On ne sait même pas que c'est moi qui l'ai imprimé. Ouais. Et ça m'est même arrivé de dire on t'a posé ça sur ton bureau, c'est vrai que j'ai déjà remarqué que tu faisais des remarques un peu harcelantes, tu devrais faire attention et peser tes mots, ne sait-on pas qu'on t'enregistre un jour? Ah non, moi j'en joue. Ouais. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de collègues autour de moi qui m'ont parlé aussi d'harcèlement. Et je vais vous donner un autre exemple.
Ouais.
J'ai une collègue à moi, elle a eu une fin de période d'essai. On ne lui a pas expliqué le pourquoi du comment. Tout ce qu'elle sait, c'est que la veille, on lui a fait une réflexion sur sa jupe.
Ouais.
Qui était un peu courte. C'est sa responsable femme qui lui a fait la réflexion. Et c'est une jeune femme qui était junior dans le métier et qui savait pas forcément comment s'habiller. Alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mimait les tenues de sa responsable pour être sûre que les tenues soient professionnelles.
Ouais.
Donc, elle a répondu à sa responsable en lui disant, mais je comprends pas, j'ai mis la même jupe et la même paire de bottes que vous portiez hier. Et la responsable la regardait en lui disant, oui, mais ça fait pas pareil.
Ça, c'est pas pareil.
Ouais, c'est une drôle de réponse. Ouais.
Ouais. Mais c'est des réponses qui sont,
qui sont entendues. Oui. Après, bon, bien évidemment, il y a des dress codes dans certaines boîtes, dans certaines sociétés. Bon, après, on voit pas à quoi elle ressemble, sa jupe. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir un avis sur le sujet maintenant.
Ouais. Les femmes.
0153 43 3000, si vous êtes victime, de sexisme, ordinaire. D'harcèlement aussi, hein, évidemment, un peu comme vient de nous l'expliquer Camélia. Eh bien, on vous attend au standard 0153 48 3000. N'hésitez pas, venez témoigner ou nous faire part, évidemment, de ce que vous voyez si vous êtes témoin. Jean-Pierre, vous voulez dire quoi?
Ben, que c'est important d'avoir des témoignages comme celui-ci et que l'éducation des filles dans ce contexte est important. Il faut donner des armes morales et des armes de caractère aux femmes qui travaillent dans des boîtes où elles sont susceptibles de faire l'objet de ce genre de phénomène.
Sauf que la Camélia a du caractère, mais c'est
et
pas
toutes
le cas.
N'en ont pas. Toutes
exactement.
N'en ont pas,
c'est vrai, Camélia, non? Toutes n'ont pas votre caractère, hein.
C'est un emploi et que c'est pas grave si on le perd. Tant qu'on perd pas notre dignité, on en retrouvera un autre dans le temps.
Exactement. Merci Camélia, il faut avoir le courage de venir en parler et tout. Donc merci infiniment.
Merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que ça aura servi à des personnes qui nous
écoutent. Absolument, c'est ça le plus important. 0153 48 3000. On va lancer le face-à-face, mais continuez de nous appeler au 0153 48 3000 si vous-même vous avez été victime, témoin de sexisme ordinaire au sein de vos boîtes, c'est-à-dire respectives.
Il faut en parler.
C'est important d'en parler, non?
Bien sûr, c'est fondamental. Déjà,
le harcèlement.
Déjà, ça évite que ça.
Pourquoi il faut en parler?
Un, ça peut éviter la récidive. Et deux, c'est important moralement de se sentir éventuellement soutenu par des collègues de travail qui peuvent vous apporter l'idée, vous conforter dans l'idée que vous n'êtes pas seul. Parce que c'est toujours le problème, hein, c'est que ces périodes de harcèlement.
Vous avez dirigé un service, justement, vous connaissez ces sujets-là.
Il y avait des femmes aussi. Et bon, moi, je n'ai pas eu à connaître. Alors, aucune femme ne s'est jamais plainte de moi, je touche du bois. Mais voilà, quoi.
À quel moment vous jaugez que ça, c'est plausible ou pas? À quel moment vous jaugez? À quel moment vous avez. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous viennent à l'esprit qui vous ont.
Un des critères qui peut permettre d'éveiller les consciences, c'est lorsque ça devient malsain. Il ne faut pas non plus tout mélanger, les blagues ou les mauvaises blagues peut-être, mais ce qui est du ton du badinage, du léger, et puis de quelque chose qui est plus pernicieux, qui est plus tordu, où il y a véritablement une envie de faire du mal quelque part. Donc ça, il faut s'en protéger et en parler autour de soi. Et si vous avez il y a un chef de service qui se laisse un peu aller, si il a à un moment donné un autre son de cloche qui le met en garde, qui vient lui taper sur l'épaule, une sorte de Jiminy Cricket qui lui tape sur l'épaule en disant bon maintenant tu t'arrêtes parce que la personne X le ressent mal, voilà quoi, il faut que ça fonctionne comme ça, par la communication fondamentalement, dans un premier temps.
Bon, continue de nous appeler 0153 48 3000, c'est parti, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face,
on vous garde, hein, Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui le porte-parole des policiers indépendants et comédien par ailleurs aussi, donc restez avec nous, absolument. Et également, vous savez, eh bien, l'homme des médias, il est omniprésent, notamment. C'est vrai,
Emmanuel Dupuis. Oui, la nouvelle casquette que j'assume.
Voilà. Emmanuel Dupuis, comment ça va, le président de l'IPSE, l'Institut?
Ça va,
bien.
Toujours, un plaisir d'être là.
Un plaisir partagé.
J'aime la radio.
Ménade, comment?
J'aime la radio et j'aime la vôtre.
Ben merci. Mais vous êtes un vieux de la vieille maintenant.
Un pilier.
Ouais, un pilier, c'est vrai. Ça fait longtemps maintenant qu'on se connaît. Hein.
Très longtemps.
Très très longtemps, absolument. Mela Douchini, ancien élu, mais également aujourd'hui consultant numérique. Comment ça va?
Très bien, dis-le-vous.
Comment il se porte l'ancien élu? Des fois, ça le ronge pas de revenir, justement?
Ronger, c'est pas le mot que j'emploierais, mais on y songe.
Bah, quand on voit l'actualité politique en ce moment...
C'est vrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
On est tenté quand même de revenir dans la politique, quand même. Hein.
Non, c'est pas parce qu'on n'a pas de mandat qu'on ne fait pas ou qu'on ne peut pas faire de politique et s'investir sur le plan militant, par exemple. Ce qui est mon cas à Reny-sous-Bois.
J'ai compris que vous préparez les prochaines élections.
Je suis en équipe.
J'ai vu ça. Je l'entends plutôt. Le retour, quel retour? Un retour fracassant. Alors, Abdeslam Itache, bah oui, ça fait combien de mois qu'on ne vous a pas vu sur
ça
le plateau?
8 mois.
8 mois? 8 mois, vous trouvez que c'est pas long? 8 mois, on a le temps. Il reste un mois et on fait. Voilà, c'est le temps de. Évidemment, de pondre, d'une gestation. Bon, ça va, tout va bien?
Oui, très bien.
Bonne année, on n'a pas eu l'occasion de vous dire.
Bonne année à tous les auditeurs et auditrices.
Hein, absolument, tout va bien?
Parfaitement.
Bon, toujours le modem, hein?
Non,
vous avez changé.
Beaucoup d'eau a coulé.
Ah oui, alors dans ce cas-là, remettez-moi un peu au parfum, là, parce que moi j'ai.
Risque de monopoliser toutes les missions.
Non, vous n'avez pas.
Non, moi, je me suis présenté aux législatives, je n'ai pas été soutenu par cette famille politique.
Oui.
Je ne dis plus ma famille politique, cette famille politique. Et donc, je l'ai quitté. Et, alors, officiellement, je suis encore vice-président du MoDem 95.
Ouais.
Je n'ai pas encore déposé ma démission écrite. Mais en tout cas, dans le cœur, c'est, le divorce est déjà consommé. C'est
fait. Oula, bon. Ouais, ouais.
Et j'ai rejoint Europe Écologie Les Verts.
Bon, Europe Écologie, mais là c'est le grand écart là, dis donc, que c'est, oh là 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 là.
Non,
non, non, non, non, excuse-moi, le MoDem, Europe Écologie Les Verts.
Il y a eu beaucoup de transfuges du MoDem vers Europe Écologie Les Verts et inversement. Yann Verling, je peux vous en trouver d'autres.
Oui, mais
dans l'autre sens.
Mais n'oublions pas que le MoDem est une émanation du PS suite à la défaite de Ségolène Royal.
C'est pas le MoDem.
Voilà, le MoDem a toujours été très à gauche quand même par rapport à d'autres partis centristes.
De part et d'autre.
Oui, enfin, la direction du PS est quand même un petit peu plus à gauche que
le. Exactement.
On peut avoir le cœur de Jadot quand même.
Donc vous passez à gauche là.
En fait, je crois que je l'ai toujours été.
Vous l'avez toujours été. Ça y est, c'est la révélation. La révélation suprême. On lance la pub, on se retrouve justement pour parler des sujets qui nous concernent. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h44, les informés avec Jean-Pierre Colombiès, avec Emmanuel Dupuis, avec Mena Douchenir et enfin avec Abdeslam Itache. Justement, messieurs, nous allons démarrer avec ce sujet concernant la crise OPS, le conflit, ça y est, le clash désormais, on peut le dire, entre Faure et Maier Rossignol, pardon. Le débat, la crise s'enlise, mais surtout, quelle sortie de crise concernant évidemment l'EPS, puisque on a le sentiment que c'est des querelles de personnes, des querelles qui divisent. Les militants dans tout ça, évidemment, spectateurs, ne savent plus quoi faire. Plus de ligne politique. Que doit... Non, mais c'est vrai. Non. Qu'est-ce qui se passe au PS? Est-ce que l'EPS est en train de disparaître, Emmanuel Dupuis?
Alors, c'est pas que des querelles de personnes non plus, hein, attention, parce qu'il y a quand même...
Des batailles.
Ouais, c'est des batailles d'égo, mais derrière les batailles d'égo, il y a quand même des lignes idéologiques. La ligne idéologique d'Olivier Faure est compatible avec une extrémisation de ce qu'est le Parti Socialiste, qui est beaucoup plus loin de la doctrine social-démocrate de Maier Rossignol. C'est un point avéré. Mm-hmm. L'extrême, enfin, ce qu'on appelait autrefois la deuxième gauche, celle de Rocard, beaucoup plus à gauche, et la social-démocratie, celle de Hollande, celle de Ségolène Royal, d'une certaine façon, celle de Fabius. Ou de Cazeneuve aujourd'hui. Ces lignes-là sont toujours très présentes au PS. La grande différence, c'est qu'il y a une partie du PS qui a accepté de sortir du PS pour faire une alliance avec un parti dont les principaux responsables anciennement PS, Madame Hidalgo, Monsieur Cazeneuve, Monsieur Jospin, Monsieur Stéphane Le Foll, disent qu'ils sont, ils ont trahi l'héritage mitterrandien. En fait, c'est une sorte de ligne de clivage entre les anciens mitterrandiens et la nouvelle génération des mitterrandiens, comme on a au sein des Républicains, on est en train d'écluser le fond de gaullisme ou le fond de sarkozisme qui est resté dans ce parti. Donc c'est pas que des batailles d'égo. Et puis de toute façon, le Parti Socialiste n'est qu'un parti de cadre.
Est-ce que le Parti Socialiste ne risque pas de disparaître au détriment d'avoir des démocrates déjà, un peu à l'américaine, c'est-à-dire on aura les Républicains et les démocrates.
Le PS a déjà Le PS a déjà disparu quand Madame Hidalgo a fait un score ridicule, et le PS a déjà disparu quand il a intégré la NUPES.
Donc ça va.
Mais oui, c'est rien.
Ce avec les Républicains, les démocrates.
Non, si je peux me permettre,
On va se retrouver avec.
Les démocrates. Démocrates. Alors, les un nouveau mouvement qui va naître.
Oui, oui. Les démocrates, ça s'écrit Macron.
J'en sais rien, je sais pas. Moi, je fais pas de la politique, moi.
Parce que si les Républicains sont les Républicains, Macron, c'est pas forcément que les démocrates.
Jean-Pierre Colombiès, un tour de table, tiens.
Ouais, très rapidement, je ne suis pas adhérent au Parti Socialiste, mais pour moi, déjà, le champ du cygne, c'était l'élection d'Olivier Faure comme secrétaire général. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas faire que du cosmétique en matière de politique, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce monsieur n'avait strictement aucun charisme. Et la preuve en est, c'est qu'aux élections présidentielles, c'était une catastrophe. Moi, j'ai le sentiment que c'est des tempêtes dans un verre d'eau. Le Parti Socialiste, aujourd'hui, est illisible, indéfinissable, et qu'on assiste un peu à une sorte de Frankenstein. On essaie de recoller un peu les morceaux d'un corps disloqué pour en faire une sorte de machine supposément vivante pour porter quelque chose. Mais quoi? On ne sait plus. On ne sait plus, parce qu'effectivement, c'est tiré entre les pro-mélanchonistes, les anti, enfin, au final, ça représente surtout combien d'adhérents, combien de divisions, comme aurait dit un autre. pas grand-chose. Il n'y a pas de débat d'idées. Il n'y a plus de grand débat d'idées.
Bon, on est passé de 300 000 à 44 000 quand même. Hein.
Ben, ça fait mal.
C'est adhérent.
Ah ben, ça fait mal. Non, mais il n'y a plus de grandes lignes. Non, mais il n'y a plus de grandes lignes.
Oui, c'est ça que j'allais dire.
Il
n'y
a plus de grandes lignes. C'est tout. On a entendu ces gens-là parler de débats qui n'intéressaient qu'eux-mêmes. Et plus les grandes masses populaires, c'est fini. Ils ont perdu le lien avec la population, le peuple, l'opinion publique. C'est tout. Ils ne parlent que d'eux.
Mais là, Douchenir.
Je rejoins ce qui vient d'être dit, mais j'ajoute à ça que sur un grand parce qui fut, en tout cas un grand parti, et puis quand, moi, je pense que si, quand ils ont commencé à avoir de leur siège de la rue Solferino, etc., là aussi on avait des indices, on va dire, du déclin. Pour moi, ça a commencé vraiment, alors je vais peut-être remonter un peu, mais lorsqu'il y a eu la présente élection où Ségolène Royal et Martine Aubry, déjà à l'époque, se disputaient la victoire. Et Martine Aubry avait renoncé justement à...
Mais comme le dit Emmanuel Dupuy, il y avait quand même une ligne politique. Il a raison, il n'a pas tort. Déjà à l'époque, il y avait quand même... C'était des éléphants,
Dupuy,
quand même.
On est en train d'épuiser les
Royal
derniers,
et Aubry, voilà, c'était des poids lourds.
On est en train d'épuiser le dernier fond idéologique. Mais ce n'est pas le seul parti. Hein. On parlait de LR, mais même au RN, hein, j'ai envie de vous dire. Les lignes idéologiques du passé ont été également, sont en train d'être épuisées. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de ligne pour remplacer. Aujourd'hui, il y a très peu de partis qui ne sont pas, pardonnez-moi, mais des mouvements charismatiques.
Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de leader.
Non, mais c'est des mouvements charismatiques. Prenez La République En Marche, par exemple, c'est fait autour de la personnalité, d'abord, d'Emmanuel Macron. Après, il y a eu le fameux En Même Temps, etc., de ni de gauche ni de droite, ça, c'est peut-être un peu plus de marketing. Prenez le RN, c'était donc Le Pen, c'était déjà un mouvement charismatique. Sa fille, mais là, maintenant, c'est Jordan Bardella qui va incarner ça. Puis, au Parti Socialiste, il n'y a plus personne, effectivement. Et puis, vous avez...
Quand vous écoutez Bardella, on a l'impression que ce n'est plus du tout l'extrême droite. Hein.
Ça fait
flipper, quand même.
Voilà, et si on prend Reconquête,
on est en train de banaliser certaines choses.
Reconquête qui s'est photo la personnalité là aussi d'un homme, etc., etc. Donc maintenant on a moins de partis, on a davantage des mouvements charismatiques. Et moi, c'est ce qui m'interroge sur l'avenir du paysage politique français, puisque où sont les idées?
Où sont les idées? C'est une bonne question.
Pour le RN,
il n'y a plus d'idées.
Pour le RN et LR, le gros problème, c'est que le LR n'a eu de cesse que de courir après l'électorat du RN. C'est pour ça que les lignes sont floues. Et il faut se souvenir des débats de Sarkozy, des discours de Sarkozy.
Sarkozy avait vampirisé
complètement.
Le Front National.
Sauf que c'est l'inverse qui s'est passé. Oui, sauf que l'électorat des LR, enfin de la droite dite classique de gouvernance, elle est allée vers le Rassemblement National.
Abdeslam Itach, le PS, la crise, les querelles, la division, la bataille.
Vous savez, il y a les micro-particules, les nanoparticules, je pense qu'il y a aussi les micro-partis, les nanopartis. Et le Parti Socialiste fait partie de la deuxième catégorie. Ils disparaîtront et on ne les pleurera pas parce que c'est un parti qui a d'abord trahi une bonne part de son électorat.
Complètement.
Le mandat de François Hollande a été le mandat de la lâcheté.
Les mots sont forts.
Il y a plusieurs choses, mais oui, il y a plusieurs choses.
Le mandat de la lâcheté.
Il disait au Bourget lors de son meeting, mon ennemi c'est la finance et je ferai de la jeunesse ma priorité.
Taratata. C'est pas faux.
Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ensuite, quand on a Manuel Valls, il aurait pu le remercier et prendre un ministre un peu plus ancré, enfin un peu plus, beaucoup plus ancré à gauche.
C'est ce qu'il avait fait au début avec Jean-Marc Ayrault. Hein.
Oui, complètement. Mais alors pour le coup. On s'est retrouvé avec
qui était un bon ministre,
de la nationalité française.
Et les deux Manu. Emmanuel Valls et Emmanuel Macron.
Exactement. Mais au-delà de ça, il y a eu le renoncement au récépissé du contrôle faciès, qui était aussi une promesse de campagne. Donc vous voyez, François Hollande a manqué de courage politique. Et si aujourd'hui le Parti Socialiste en est là, eh bien c'est bien fait pour eux. Ils n'ont plus rien à faire en politique. Et je pense que tous les quatre ici sommes d'accord, au moins sur ce point-là, que voilà, la vie politique change et pour le coup, elle évolue et elle évoluera sans le Parti Socialiste.
Est-ce que vous êtes tous d'accord justement pour dire que le Parti Socialiste va être amené à disparaître doucement?
Je pense pas.
Il doit disparaître pour être remplacé par, je sais pas moi, les démocrates, comme aux États-Unis finalement.
Non. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que justement, l'idée selon laquelle il y aurait une volonté de simplification que tout le monde validerait. En gros. Ça ne sert à rien d'avoir 5 ou 6 partis. La vie politique française tourne autour de 5 ou 6 partis. L'extrême gauche, l'extrême droite, la droite républicaine, la gauche républicaine, la gauche laïque, comme on disait avant, le centre, avec les différentes chapelles, et puis l'apparition, dans une nébulosité un petit peu fragile, d'une social-démocratie dont s'est incarné au début Emmanuel Macron, et d'une chrétien-démocratie qui s'est transformée au fur et à mesure avec... le MoDem qui est héritier de tout ça. Moi, je suis profondément, parce que j'ai appartenu à la famille centriste, vous le savez,
j'ai toujours gravité depuis maintenant, ma vie politique remonte comme quasiment 25 ans. Bah, j'ai commencé au Parti radical de gauche, j'ai fait Radico Valoisien, j'ai été à l'UDI, j'ai été un des nous étions à la fondation de l'UDI en 2012, j'ai été secrétaire national de l'UDI, j'ai moi-même créé mon parti politique. Je crois que ce qui est en train de se produire, c'est pas tant la fin du Parti socialiste, c'est une volonté de simplification que je récuse avec une notion selon laquelle il y aurait, comme vous l'avez dit Adil, les républicains et les démocrates. L'anglo-saxonisation, l'ubérisation de la vie politique française est la pire des choses qui arrivent. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec Adil Sam. Je souhaite
que la social-démocratie
ait un parti et un véhicule pour s'exprimer.
Alors les social-démocrates.
Les social-démocrates.
Omar, ben c'est vrai, oui,
ils ont toujours existé. Voilà. C'est pas ce que veut Mélenchon.
Bah, écoutez, attendez, on marque une pause. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés 0153483000, vous pouvez continuer de nous appeler, bien sûr, avec grand plaisir. Tout de suite, le face-à-face avec les débatteurs influenceurs qui sont avec nous sur le plateau. Le retour, évidemment, d'Abdeslamitash Moun Meladouchenir, Jean-Pierre Colombiès et enfin Emmanuel Dupuis. Je fais un tour de table juste sur l'histoire des social-démocrates, justement. Jean-Pierre Colombiès, vous en pensez quoi?
Franchement, c'est un mot, oui, c'est un slogan, mais je vois pas ce qu'on peut y mettre derrière en l'état actuel des choses. Je n'entends pas d'idées. J'entends des gens, des hommes, des femmes qui s'expriment, qui balancent des slogans, qui balancent des formules. Il y a pas d'idée pour moi derrière tout ça. Mais c'est l'avis d'un observateur extérieur. Je n'ai pas non plus la substantifique moelle des idées qui peuvent véhiculer derrière tout ça. Mais pour l'instant, toujours aujourd'hui, le spectateur que je suis,
je vois très mal comment
quelque chose d'assez minable.
Le PS peut résister évidemment à cette tempête. La vérité, hein, je vous le dis clairement. Mélade.
Ça va être un parti zombie comme d'autres existent actuellement.
Tu changes de nom, il y a plein de partis qui ont changé de nom.
Je ne crois pas forcément à la
condamnés à garder le Parti socialiste. Hein.
Ou de la vie politique française, je ne crois pas à une bipolarisation à l'anglo-saxonne, parce que déjà nous ne sommes pas des anglo-saxons, ni dans l'esprit, ni dans l'histoire.
Macron a lancé quand même.
Oui, mais Macron, alors Emmanuel Macron va terminer son mandat en 2027, vraisemblablement.
Mais il a fait une espèce de social-démocrate.
Réforme constitutionnelle à venir, il ne sera pas réélu. Donc,
si on arrive à ça, c'est un coup d'état.
Moi, je serais très curieux de voir ce que va devenir Renaissance à partir de juin 2027 ou juste après la législative de 2027. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement la disparition de la nuance en matière politique. C'est vrai que la raison pour laquelle on est un pays avec plusieurs partis. Moi aussi, cher Emmanuel, je viens du monde de la galaxie centriste. Je dis bien une galaxie, puisqu'on a pour le coup pas mal de chapelles, enfin d'étoiles. Parce qu'il y a de la nuance. Il y a les libéraux, les ultralibéraux, les néolibéraux. Vous allez avoir la démocratie chrétienne, vous allez avoir tout un tas de nuances. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, alors, c'est que cette nuance dans les idées disparaît et on va vers des idées simplifiées. Et les candidats qui font un peu de score, ou en tout cas qui gagnent un peu de visibilité, c'est ceux qui ont des idées.
Revenez à ce que je disais tout à l'heure. Où sont passés ces penseurs?
Mais ça, pour moi, ça ne va pas donner.
Pour moi, la politique, c'est les penseurs avant tout. C'est vrai.
La simplification des idées ne va pas donner lieu à une bipolarisation.
Je les vois plus.
Ça va juste donner lieu à un aplanissement complet du débat démocratique et on va s'opposer sur des bêtises comme on en a régulièrement le port du voile ou l'uniforme à l'école plutôt que de s'occuper des vrais sujets impactants pour notre pays.
Abdeslamitash.
Sur ces sujets, c'est surtout des sujets pour.
Il ne passe pas du tout.
Les problèmes pour pas parler des vrais problèmes.
Oui, c'est ce que vous dites. C'est pas des vrais sujets.
Ce sont des. Notamment l'appartenance à l'Europe.
Par exemple. Entre autres. Et alors, concernant justement ce multipartisme qui est une nécessité pour la démocratie en France, moi je ne vois pas une bipolarisation de la vie politique entre les républicains et les démocrates à l'anglo-saxonne. Les Français restent quand même attachés à la politique. Mais je tenais juste à préciser une chose. Vous savez, dans tout parti, il y a des courants de pensée complètement différents. Dans la famille Modem que j'ai connue pendant longtemps, il y avait... les plutôt centre-gauche, les centre-droit, les centre-centre, ceux qui voulaient être composés avec la majorité, ceux qui voulaient absolument garder leur indépendance. Ne serait-ce que dans un parti, vous avez déjà pléthore de postures. Je vous laisse imaginer quand il s'agit de la NUPES avec plusieurs partis politiques avec des idéologies complètement différentes. Mais c'est la, la, le paysage politique français est ainsi fait. Et de cette richesse-là, on peut justement débattre. Vous savez, un homme politique disait si nous disons tous la même chose, nous ne disons plus rien. Mais c'est exactement ça. Et je suis bien content de pouvoir échanger avec des personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec moi. Ça fait bouger les lignes. Et c'est un bon signe de, voilà, de bonne santé politique.
Il est 19h, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, il faut qu'on avance absolument, Emmanuel Dupuis. Je voudrais qu'on parle de cette réforme des retraites qui prend de l'ampleur de plus en plus. Est-ce qu'on s'oriente, vous savez quoi, parce qu'on parle de raffinerie, on parle d'électricité, on parle, vous savez quoi, des SNCF. La SNCF qui a donné, évidemment, un signal très fort. Elle dit, prévoit des grèves pour le mois de février, y compris pendant les vacances, les congés scolaires qui risquent d'être, évidemment, prises en otage. Alors, aussi, des journées de grève qui vont être annoncées aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une montée en puissance et un risque, tout simplement, je vous pose la question, un risque de se retrouver avec une France qui risque d'être paralysée, bloquée complètement, totalement. Est-ce que c'est ça, vers, évidemment, vers on tend, est-ce qu'on tend vers ça, justement, Emmanuel Dupuis ?
Écoutez, j'ai quand même l'impression que la mobilisation de la semaine dernière n'était pas aussi forte que nous l'auraient souhaité les syndicats. Et que c'est la raison pour laquelle...
Un million et deux millions
c'est pas mal quand même.
Ils s'attendaient à quoi ? À 10 millions ?
Attendez. La mobilisation dans les rues n'est pas le blocage. Mmh. Pas la même chose. Vous avez posé une autre question.
Vous avez raison.
La mobilisation dans les rues était forte. Par contre, le blocage, moins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont maintenu la grève. Parce que sinon...
Vous avez raison, c'est vrai.
Le gouvernement n'est pas sur le point de céder. Donc, évidemment, qu'on va aller crescendo, c'est le principe même de la grève perlée. 24 heures, 48 heures, 72 heures. C'était déjà inscrit. Ça a marché en 95. Pas de raison que ça ne soit pas relancé aujourd'hui. Mmh. Bon, alors, deux choses quand même. On manifeste sur plein de choses, mais pas forcément que sur la réforme des retraites. On a déjà eu l'occasion de le dire ici.
Vous voulez dire quoi ? Cette réforme des retraites canalise de toutes
les
tensions ?
Elle canalise des tensions, des polarisations, la baisse du pouvoir d'achat, la hausse du prix de l'essence, la paupérisation d'une partie de la population.
De l'électricité, oui.
Le prix de l'électricité, l'inflation galopante, l'incurie du gouvernement à anticiper une crise énergétique avec des
communiqués.
Donc c'est un faisceau. C'est pas que la réforme de retraite. Les jeunes qui manifestent, je parle des lycéens ou des syndicats étudiants, ne manifestent pas que sur l'âge de la retraite. Ça leur paraît quand même très éthéré.
C'est un cumul.
C'est pas de ça le truc.
De tout, oui.
Par contre, qu'il y ait un ressenti social et que le gouvernement soit pris à son piège de ne pas pratiquer le réformisme, comme son nom l'indique, de viser à procéder en douceur et non pas de manière révolutionnaire. Coup de force, coup de bâton, tout le monde s'accorde à dire, même si c'était une promesse de campagne du président en 2017 ou en 2021, que cette réforme aurait pu être faite progressivement. Ils ont voulu l'assumer politiquement comme un passage en force. Donc c'est la méthode du gouvernement qui est critiquable. Et de vous à moi, je crois qu'ils ont raison de le critiquer.
Ouais. Elle passera cette réforme des retraites ?
Oui, mais à mon avis, pas comme ça.
Pas comme ça ?
Non. Je pense qu'ils vont reculer.
Ils reculent sur quoi ?
Sur l'âge de départ à la retraite.
Donc sur quoi ? 63 ans ?
Totalement.
Et on passe de 64 à 63 ?
Sur la méthode et sur la discussion nécessaire avec les syndicats. Je rappelle, juste sans monopoliser la parole.
Mais c'est quoi, 64 à 63 ? C'est ça que vous voulez dire ?
Sans doute. Ou une harmonisation européenne. Ou dit autrement, pour élaguer le débat, une harmonisation européenne. Je rappelle qu'il y a des États.
Sur 67 ans,
on va jusqu'à 69 ans, c'est le cas du Danemark.
Oui.
C'est le Danemark qui est passé de 74 ans.
Qui renvoie sa position.
Oui, non, mais c'est la Suède qui.
La question
qui est posée, c'est comment peut-on faire une réforme aussi importante que la réforme des retraites sans, au préalable, en avoir discuté convenablement avec les syndicats, avec les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés, et accessoirement, une réforme qui n'a même pas été débattue au Parlement. C'est ridicule.
Oui. C'est Jean-Pierre Corbisse. Non, mais c'est clair que là, il y a un déficit de communication. C'est même pas un déficit, d'ailleurs, c'est des erreurs de communication, mais flagrantes, manifestes. On a aussi quand même un président qui, en 2019, disait exactement l'inverse, dans un autre contexte. Mais il disait en 2019, je ne la ferai sûrement pas, cette réforme de la retraite. Il n'est pas question de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Et en plus, il argumentait. Il expliquait pourquoi il ne fallait pas la faire. Donc, il y a effectivement... Un discours de sourd dans l'argumentation de cette réforme. Il y a effectivement une sorte de millefeuille de mauvaises nouvelles Covid, crise financière, augmentation des matières premières, des factures d'électricité et de gaz qui explosent, et en plus là-dessus, un embryon de guerre d'Ukraine. Donc ce ne sont que des nouvelles anxiogènes, et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, on vous dit, bah tiens, on va vous mettre ça sur le dos, on vous met les 64 ans. Et d'ailleurs, beaucoup, même du côté du parti présidentiel, ont émis déjà des doutes en disant que c'était peut-être pas le bon tempo et qu'il aurait été plus sage de reporter ça et de le faire totalement différemment en s'installant, en s'inscrivant dans une dynamique de concertation et pas d'information. De concertation, le mot a son sens, et qu'on ait enfin des gens capables, au lieu de faire de la pédagogie à des crétins que nous sommes, de faire de la vraie communication avec des partenaires sociaux dignes de ce nom, sachant que la CFDT avait déjà proposé des réformes de retraite depuis longtemps et qu'on ne les a pas écoutées.
Il y a déjà des accords là, qui commencent déjà à donner signe entre Laurent Berger notamment et Philippe Martinez.
Ça c'est normal, c'est normal.
On parlait main dans la main jusqu'ici.
Le problème c'est la fracture avec la population qui s'annonce. C'est grave, c'est très grave ce qui s'annonce. On n'a jamais vu autant d'écart, je m'excuse, je ne veux pas être trop long, mais de mon point de vue, on n'a jamais vu autant d'écart entre la représentation nationale et l'opinion publique. Et là, nous payons de cash la réforme de Hollande qui avait supprimé le double mandat qu'on avait paré de
défiscalisation des heures supplémentaires.
Entre autres, mais surtout, de mon point de vue politiquement, le fait d'empêcher le cumul des mandats, ce qui fait qu'on avait des élus qui avaient un parcours de terrain bien établi, qui connaissaient l'opinion publique, qui l'a pratiqué. Et là, on a quoi ? On a des députés Facebook, des députés recrutés un peu comme ça,
local.
Qui n'ont aucun ancrage local. Et ça, c'est gravissime.
La cocaïne.
Emmanuel,
on va en reparler. Moi, j'aimerais bien qu'on en reparle. C'est très grave.
Avant de donner la parole aux deux autres débatteurs, rapidement, s'il vous plaît.
Il ne faut pas surestimer la représentation syndicale. On est un des pays en Europe où les syndicats représentent le moins les salariés.
10 à 11%.
Cela dit, dans d'autres pays, c'est obligatoire de se syndiquer. Dans d'autres pays, c'est obligatoire de se syndiquer.
Ça devrait l'être.
Aussi.
En Italie, il y a une culture syndicale très forte, etc. En Pologne aussi. Donc, relativisons la manière dont les syndicats instrumentalisent aussi cette grève qui leur permet de se repositionner. Je crois qu'on est dans une société dans laquelle le lien direct, on appelle ça l'ubérisation, est en train de nous gagner tous, au niveau politique, au niveau syndical. Moi, c'est pas mon modèle de société, mais je l'assume.
Ménade, au chenir.
Pendant la réforme de 2019, on évoquait le fameux âge légal et âge pivot. Donc âge à partir duquel on pouvait partir à la retraite si on avait toutes ces annuités, et âge pivot, c'était donc l'âge entre 62 et 64 ans pendant lequel il n'y avait pas de décotement. Emmanuel Macron, effectivement, à l'époque, il parlait d'une réforme. Aujourd'hui, il essaie d'en faire passer une autre. Emmanuel Macron, par son gouvernement. En 2022, présidentiel, il a parlé de cette réforme. Il a parlé du report de l'âge légal à 65 ans. Donc, de ce point de vue-là, moi, je ne reprocherais pas d'avoir tenté de faire ce qu'il a dit. En revanche, là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a une distance qui est mise avec la base, notamment les corps intermédiaires, les syndicats. Effectivement, moi je pense que ça devrait être obligatoire de se syndiquer. Je rappelle, en grand libéral, que l'histoire du syndicalisme, Bastiat, enfin, bon, c'est pour ceux que ça intéresse d'ouvrir des livres d'histoire là-dessus, c'était du libéralisme, c'était une manière de négocier le prix de la force de travail vis-à-vis des patrons, tout simplement, et on dirait aujourd'hui du trading quelque part. Donc on a perdu ça, on a perdu cette capacité de négocier, on est effectivement dans la société du direct, et je rejoins aussi le fait que les députés aujourd'hui, l'Assemblée nationale notamment, parce que le Sénat c'est encore autre chose, on a effectivement énormément de députés qui, déjà bon, au niveau du travail parlementaire, sont pas forcément les plus productifs, tout parti confondu, je vise personne en particulier, et qui effectivement n'ont pas d'ancrage local. Moi, je le vois partout, et pas que dans ma circo, je le vois un peu partout, et ils ne savent pas tellement en fait quelle est la réalité. Alors quand on avait des députés maires, on était typiquement en capacité d'avoir quelqu'un qui
faisait écho
à l'Assemblée le matin,
qui faisait effectivement écho de
ce qui a manqué pendant les Gilets jaunes.
Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, on lui reprochait de ne pas beaucoup s'appuyer sur les collectivités territoriales et les élus locaux. Et au moment des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a appelé à la rescousse pour le grand débat national ?
Les maires.
Les élus locaux.
Tout simplement. Le fameux grand débat avec tous les maires.
Et puis pendant la crise Covid, n'en parlons pas. Enfin voilà, on peut faire plein d'exemples. Donc simplement, reconnecter avec la base, oui. Discuter, oui. Mais de toute façon, cette réforme-là, selon moi, c'est une réforme de transition. Je pense que d'autres réformes devraient ou vont suivre. Dans la mesure où l'économie avance d'une certaine façon, et on a fait aussi des choix. On parlait de la défiscalisation des heures supplémentaires tout à l'heure, mais déjà d'être passé aux 35 heures il y a maintenant peut-être 25-30 ans, je sais pas.
C'était Jospin.
C'était avant, vous faisiez 40 heures par semaine. Vous aviez un certain nombre d'heures à un certain âge, à un certain moment de votre carrière. Aujourd'hui, bah, vous prenez ces 5 heures de moins que vous faites par semaine. En fait, bah, je fais pas les maths en direct, mais vous, si vous les mettez à la fin de votre carrière, en fait, c'est ça la durée additionnelle qui est demandée aux gens. Parce qu'on travaille moins la semaine, techniquement, c'est normal qu'on travaille un peu plus longtemps. Donc peut-être que revenir aussi à la semaine des 40 heures, c'est une question qu'on peut se poser. Mais à mon sens, cette réforme-là, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est mal faite parce qu'elle est mal goupillée. Mais elle mériterait d'avoir des réformes qui lui succèdent de façon à ce qu'on puisse enfin avoir une espèce de consensus. Et moi, vous connaissez ma position, c'est par branche, en fonction du métier, en fonction de l'état de la personne à un certain âge et aussi en fonction de sa volonté de continuer ou non.
C'est vrai. Des facteurs de répartition, quoi, des facteurs de pénibilité.
Oui, c'est plus un système de répartition. Beaucoup plus individualisé que ce que c'est là. Parce que là,
vous dites, Jean-Pierre,
c'est plus par répartition.
Alors, ça pourrait être par répartition.
C'est plus par répartition. Mais
simplement, non, parce que Jean-Pierre, quand on est un ouvrier du bâtiment pendant 25 ou 30 ans, arrivé à 50 ou 55 ans, on n'est pas dans le même état que moi, informaticien.
Non, mais on est d'accord.
À 55 ans.
Mais chez Emmanuel Dupuis, c'est pas celui, évidemment.
Non, mais j'ai compris que ça peut-être.
Et pourtant, il est contraire.
Non, mais j'ai compris le concept.
Je pense que votre retraite sera plutôt vers 70.
Peut vouloir dire que chaque filière peut avoir sa caisse de retraite.
Ou jamais, voilà. Comme certains. Abdeslam Itach, on ne l'a pas entendu, chers amis débatteurs.
Oui. Alors, je saisis la balle au bon. J'entendais parler des 35 heures. Alors, je voulais d'abord rétablir une vérité. On ne travaille pas moins, on travaille plus qu'avant. Ça, c'est une certitude. Vous savez, je vais vous prendre l'exemple de Bill Clinton lors de sa campagne pour la réélection. Ouais,
c'est le nombre d'heures qu'on cotise maintenant par semaine. Hein.
Ouais, mais je vais développer mon propos et je pense que vous me rejoindrez sur mon raisonnement. Il a organisé un meeting où il se vantait d'avoir développé le travail sur son premier mandat. Et un Américain se lève et dit « C'est vrai, monsieur le président, vous avez raison, moi j'ai 3 emplois ». Donc vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve à beaucoup plus travailler qu'avant. Vous savez,
Là, je vous rejoins.
Vous savez cette phrase de « travailler plus »
J'en connais à l'appel, moi, des...
Mais oui, alors, juste une chose sur les 35 heures qui a été une véritable arnaque, et je pèse mes mots. Vous savez, au début, lorsque on a instauré les 35 heures, on travaillait 35 heures et nous étions payés 39 heures. Sauf que dans la fonction publique territoriale, par exemple, ou dans les fonctions publiques, mais pas que, il y a eu le gel des salaires et que, en fait, au fil de l'eau, vous aviez le même salaire et vous aviez une inflation qui était d'au moins 2% tous les ans, ce qui faisait que, en fait, vous perdiez de l'argent. Pour finir, à travailler 35 heures et être payé 35 heures. Voilà. Donc, ça, c'est. En fait, on nous a supprimé 4 heures de travail. Pour rien du tout. Et on le voit bien aujourd'hui dans le milieu hospitalier, ils ne s'en remettent toujours pas parce que le personnel est très loin de faire 35 heures.
Donc on aurait dû garder les 39 heures.
Non, mais même aujourd'hui, vous êtes amené à travailler dans certaines fonctions où vous travaillez 37 heures, voire 39 heures, avec un peu plus d'RTT, mais... Vous êtes toujours sur ce volume d'heures et parfois vous êtes amené avec les statuts d'auto-entrepreneur, Emmanuel, à travailler un petit peu à côté pour pouvoir justement juguler cette.
Et vous réagir, Emmanuel. Oui. Alors, Emmanuel.
Bon, j'avais pas fini mon propos, mais.
Il faut aller vite, Abdeslam Itach, il faut aller vite, dites-nous.
Il
faut aller vite. Hein.
Juste une chose sur la France bloquée, moi je rejoins Emmanuel lorsqu'il dit qu'il y a bien deux choses. Il y a les manifestations et le blocage à travers les lignes de train, à travers les bus, toutes ces grèves. Je pense que le premier est juste un défilé où on donne des chiffres, 1,2 million selon la police et 2 millions selon les syndicats. Ce ne sont que des chiffres. La vraie façon de pouvoir justement tordre le bras au gouvernement, c'est justement de bloquer la France. Je sais que ça va déplaire, mais c'est...
Alors, vous savez, moi, je suis...
C'est votre solution.
Oui. Je suis un Européen convaincu, et on est tous ici, la question...
Géométrie variable.
Oui,
je crois que vous n'allez pas convaincre Jean-Pierre Colombiès. Hein.
Non, pas vraiment. Je crois qu'il n'a pas envie de me convaincre.
La question.
On l'a compris, ça. Regardez. Il m'a dit que c'est clair.
La question du coût du travail est beaucoup plus importante que le nombre d'heures du travail. Okay. Parce qu'on travaille 35, société du temps libre 32. Votre parti politique, mon cher, prône les 32 heures.
Prenez.
Prenez, ils ne prennent plus les 32 heures.
L'Europe écologie,
on va y passer la soirée. Là.
J'étais encore sur le modem.
La société du temps libre. Oui. La question est, à mon avis, mal posée. C'est pas que nous la posons mal, mais que la question du coût du travail fait que toutes ces réflexions sur l'âge de départ à la retraite, l'avenir de la retraite par répartition, le nombre d'heures travaillées.
Alors ?
Et posé par rapport à la compétitivité de notre pays au sein d'un espace européen dans lequel, désormais, la compétition n'est pas théoriquement, et c'est pour ça que j'ai affirmé que j'étais européen, ne devrait pas être entre nous, mais elle l'est parce que nous n'avons pas les mêmes armes pour lutter contre ceux dont le travail est tout aussi pénible, mais qui est mieux rémunéré.
19h14, je lance la pub, je suis désolé, ouais, là, mais là, il faut que je la lance. Je la lance et je vous donne la parole et vous allez répondre et on parlera aussi d'un autre sujet. C'est Emmanuel Pellerin, ça vous parle ?
Oh oui.
Le député ?
Oh oui.
Ah là 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 là, c'est la crise, hein, chez Renaissance.
Et on, oui.
C'est la pointe de l'iceberg.
Ça vient grandement.
C'est la pointe de l'iceberg.
Bon, à tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Oui. À 19h20, les informés avec Mena Duchenir, avec Abdeslamitash, avec Jean-Pierre Colombiès et enfin avec Emmanuel Dupuis. Sachez que le débat continue. En quelques secondes, pour clore ce sujet, on va parler d'un député Renaissance des Hauts-de-Seine qui reconnaît avoir consommé de la cocaïne. Il est exclu, ça y est, ils ont examiné son dossier. Exclusion complète. Jean-Pierre Colombiès, avant de parler de ce sujet.
Bon, très vite, je ne vais pas monopoliser, mais pour moi, c'est une honte absolue. Et là où ça me scandalise, c'est que je veux être vraiment certain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est en retrait, il se met un peu de côté. Ça veut dire qu'il rentre chez les non-inscrits. C'est quoi l'idée ? Parce que Katniss...
Vous parlez de qui, là ?
De Pellerin.
Ah oui, d'accord. Donc, on passe vraiment au sujet, là.
Non, mais je fais... Ah, on parle de quoi ? Vous voulez parler
de... Parce que je pensais qu'on parlait de la réforme des retraites.
Ah non, pardon, elle retombe pour moi.
Ok. Personne ne veut rajouter quelque chose.
Non, si, sur la réforme des retraites, du coup, je vais faire très, très court. Mais. L'idée, justement. Tout dépend de comment on regarde la retraite. La retraite, ça n'est pas un mouroir. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, si je suis en bonne santé, je continue à travailler. » Non, moi, ce que je voudrais, c'est être à la retraite et faire le tour du monde. C'est pouvoir faire du vol avec mes petits-enfants. Vous voyez, c'est
tout ça. Il
faut
de l'argent pour ça.
Mais bien sûr qu'il faut de l'argent pour ça. Mais on sera toujours attrapé par l'argent. Et c'est bien là le problème.
Bah oui.
Aujourd'hui, vous avez l'inflation. Emmanuel Dupuis parlait justement de la compétitivité. Mais vous le savez très bien, lorsque vous augmentez les salaires, forcément, c'est répercuté sur le coût de production. Puisque sont inclus justement toutes ces dépenses et la masse salariale. Donc, et vous serez toujours attrapé. Donc, vous percevez un peu plus de salaire et derrière, vous avez les prix qui flambent. Donc, vous voyez,
messieurs,
juste pour dire que la retraite, c'est pas un mouroir et qu'il y a une vie après la retraite.
19h22, là, pour le coup, on parle du député des Hauts-de-Seine qui a été exclu donc de Renaissance, qui dit avoir... Il est accusé, hein, mais il reconnaît. Hein, il reconnaît avoir consommé de la cocaïne. Terrible sujet, évidemment, qui vient fragiliser Renaissance. Jean-Pierre, oui. Et là, vous pouvez passer votre coup de gueule.
Alors, le coup de gueule, je l'ai déjà passé en plus sur les réseaux sociaux, parce que c'est absolument scandaleux. On nous parle d'exclusion du parti. Oui, mais que je sache, il est toujours député, parce que personne ne peut forcer un député à démissionner. C'est statutaire, c'est comme ça, on ne peut pas le faire. Mais c'est une honte absolue, ce monsieur doit démissionner. Mais comme Katniss, c'est pareil. Katniss a commis des violences conjugales, il est condamné pour ça, il doit démissionner. Et Pellerin doit démissionner. Et pourquoi ? Après, je termine là-dessus. Mais parce que ces gens-là ont un mot à la bouche. Ma fidélité par rapport aux électeurs. Sauf que les électeurs, ils n'ont pas élu un mec qui tarde sa femme, ils n'ont pas élu non plus un député qui sniffe des rails de coq. Donc s'ils sont honnêtes, ils démissionnent, ils se représentent devant devant l'opinion publique si ça les amuse, et on voit si on leur reconfie un mandat.
Emmanuel Dupuis, vous dites quoi ? Vous pensez ? Vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis tout à fait d'accord, mais j'ajoute un autre point. Le scandale, c'est pas tant... Alors évidemment, c'est scandaleux qu'un député de la République...
Bah si, quand même.
Ah bon ? Laissez-moi finir.
Bon, je vous laisse
finir. C'est scandaleux qu'un député de la République ait consommé de la cocaïne, ce qui est pour moi un vrai problème, voire une affaire. C'est que le conseiller spécial chargé des élections de la... Amont, ayant eu connaissance du dossier avant que ça sorte officiellement, en le prévenant que le conseiller parlementaire du garde des Sceaux est également appelé le député. Alors là, si c'est pas une ingérence
complète
de l'État, ou pardon, du système gouvernemental qui se joue de la procédure judiciaire. Le député aurait dû être informé par la voie judiciaire. Il l'a été informé en avant par la voie politique. Je suis d'accord, il devrait...
Par la voie politique, par ses collègues.
Oui, non, par ses collègues.
Par le pouvoir.
Par l'exécutif, mais non. Par l'exécutif.
C'est vrai.
Par la présidence, en l'alertant, en disant voilà ce qui va t'arriver. Alors si, avec ça, le principe de... comment dire, de
séparation des
propres
pouvoirs.
À Montesquieu, de la séparation des pouvoirs
d'éthique, d'honnêteté.
Vous êtes d'accord avec Jean-Pierre, il faut qu'il démissionne ?
Mais il faut qu'il démissionne et qu'accessoirement, l'exécutif s'explique.
Et,
et que sur cette ingérence.
Si je peux me permettre, il y a autre chose. Il a déclaré, de ce que j'ai lu, en avoir consommé avant son élection, pendant et après. Mais là, pour moi, les choses sont claires et nettes. Article 40, on signale ça au procureur de la République, on lève son immunité parlementaire et il va s'expliquer devant la justice. On doit le mettre en garde à vue et accessoirement, il peut peut-être nous donner l'identité de son fournisseur. Je vous rappelle les déclarations de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. C'est la mère des batailles. Là, je le paraphrase avec
les gentils et méchants. Avec les méchants.
Voilà, exactement. Ouais. Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Ben là, monsieur le ministre de l'Intérieur, allez-y, faites-le mettre en garde à vue, levez-lui l'immunité parlementaire et démantelez un réseau. Vous en avez un à l'Assemblée nationale. Forza, en avant.
Coup de gueule de Jean-Pierre Colombier.
Pas mieux, dans le sens où il y a deux volets. Effectivement, le premier, démocratique, remettre en jeu son mandat, ça me paraît indispensable, comme pour Adrien Quatennens d'ailleurs. Comparer les deux, le comportement déviant, en l'occurrence, ça, la démocratie, on dira son mot à dire, parce que les gens qui l'ont élu à l'époque ne savaient peut-être pas qu'ils ont élu quelqu'un qui avait une propension à consommer des drogues. Puis, deuxième chose, effectivement, j'allais le dire également, le ministre de l'Intérieur, très régulièrement parle des réseaux de trafic de drogue, etc. Ce député, il a bien acheté quelque part, mais quelqu'un qui lui a ramené. Il y a des réseaux, son argent est allé alimenter autre chose que...
Et le nôtre peut-être accessoirement parce qu'il est député.
Oui, sans doute, mais à la limite, c'est un député, il touche son indemnité de député, mais cet argent est allé alimenter les caisses d'un réseau
d'un trafiquant
de drogue. Donc là aussi, il y a pour moi ce volet plutôt judiciaire ou procureur. D'ailleurs, je suis étonné, parce qu'on a déjà vu quand même le procureur se saisir beaucoup plus vite dans d'autres affaires, en 2017 notamment, célérité de certains procureurs pour aller chercher dans le passé de certains candidats était beaucoup plus importante que aujourd'hui de ce que je constate. Est-ce que
vous vous rendez compte de l'image qu'on renvoie ?
Simplement, peut-être qu'effectivement, en tirant un peu la ficelle, on va peut-être trouver qu'il y a d'autres députés qui ont également ces manières-là. On peut pas. Alors, naturellement, moi je distingue toujours l'exemplarité de la vertu, mais dans ce cas précis, alors après, c'est peut-être une addiction, il y a peut-être des choses. Ça mérite d'être exploré, mais ça n'empêche pas qu'il y a un volet judiciaire, il y a un volet démocratique à aller développer, et pour l'instant, rien ne se passe.
Abdeslam Itache.
Alors, justement, enfin, sur un des articles, il disait qu'il avait pris de la cocaïne par le passé, lorsqu'il a rencontré des difficultés personnelles et familiales, en expliquant qu'il s'agissait
de disent tous les toxicomanes
occasionnels. Oui. Et ensuite, il dit, il reconnaît en avoir repris le week-end où il a fêté son investiture au mois de juillet.
Tout va bien.
Et après, c'était terminé. Ça veut dire qu'en fait, quand il est triste, il en prend de la cocaïne. Et quand il est gay, il prend de la cocaïne.
Tout va bien
dans le meilleur des mondes. Et le problème, c'est que cette politique et ces politiques, en fait, basent leur crédibilité sur la probité. Et le problème, c'est qu'ils sont de très mauvais exemples. Vous voyez, par exemple, je vous donne un autre exemple.
Je rappelle qu'il y a un ministre de la Justice qui est mis en examen aussi, au passage.
Entre autres, oui. Complètement. Mais d'abord, avec un casier judiciaire, vous pouvez vous présenter aux élections. Alors que dans la fonction publique, par exemple, vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Donc, et le niveau de responsabilité est bien moindre pour un petit fonctionnaire de catégorie A, B ou C que pour un élu qui siège dans une des deux chambres.
Avant de fermer le chapitre des informés, vous savez quoi, Emmanuel Dupuis, vous commentez régulièrement sur les chaînes de télévision justement l'Ukraine. Je voudrais juste en quelques... peut-être pas d'une phrase, mais l'Ukraine, livraison de chars, la déclaration de l'ex-officier français qui dit que les alliés veulent avant tout éviter une victoire russe, et puis cette escalade de la guerre en Russie est-elle inévitable, oui ou non, vous, spécialiste ?
Alors, escalade de la guerre en Ukraine.
En Ukraine.
Pas en Russie. Alors, elle est inéluctable, oui. Nous ne sommes pas responsables.
Bien dans le micro. Oui, voilà.
Nous ne sommes pas responsables d'une agression qui est avérée, assumé, légitimé d'ailleurs dans la narration russe.
Oh, mais ça veut dire quoi ? Ça traduit quoi, ces livraisons de chars, justement ?
C'est dans l'ordre des choses. À partir du moment où la Russie se réarme, il est logique que l'Ukraine se réarme aussi.
On met un euro dans le jukebox.
Oui. C'est pas qu'on mette un euro dans le jukebox. On permet à une armée qui n'avait pas les moyens de se...
Donc c'est l'escalade.
L'escalade, elle a commencé le 24 février. Et elle ne s'est jamais arrêtée.
Bien sûr.
Voilà. Donc on est à l'escalade depuis le début. On pourrait même dire que l'escalade a commencé en 2014. Mais peu importe. Pour répondre à votre question, là on parle des chars. Et tout le monde est focalisé sur les chars.
La semaine prochaine, ce sera les avions de chasse. Et après les avions de chasse, ce sera les systèmes de drones ultra perfectionnés. C'est logique. Nous sommes rentrés dans une logique de guerre que tout le monde assume. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre où est le débat. Tout le monde assume.
Moi, j'assume pas. Moi, j'assume pas
cette logique de guerre. Enfin, moi, je l'assume. Pardon.
Oui, tombé,
moi, je l'assume. Parce que ça, c'est dans l'ordre des choses.
Merci, messieurs. Merci, Ménad de Chénir.
Il n'y a pas de débat.
Merci. À 19h30. Ça y est, on rend l'antenne.
Alors pourquoi vous me demandez du.
On vous Abdeslamitash, au plaisir, j'espère.
Bah, très vite.
Hein. Faut pas disparaître.
Je suis là la semaine prochaine.
Bon, avec plaisir. Jean-Pierre Colombiès.
Bonne soirée à tous.
À très vite. Emmanuel Dupuis.
Eh ben, je reviendrai pour faire ce débat.
Absolument, pour faire ce débat. À la réalisation, c'était Anthony. Merci à lui. Merci aux nombreux auditeurs. Au 01 53 48 3000, Bilal Nedman. Justement, je l'ai salué en premier. Bilal Nedman de 20 à 21. Ensuite, Vanessa à 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.